Radio Jenny, la plus rebelle des radios. What you call is a diamond fella. With your little ways of a comedy appearance. You fellow, but your fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello. You, what are you gonna do? Little boys get tame like a shoe. You live summer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capturing your monarchy, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, get into your CD. As for me, all's well that ends well. Bonsoir.
Et bonsoir.
Il est 19h passé de 11 minutes.
Les salons de méga combi nous ont encore piqué 10 minutes sur notre émission à nous.
Et c'est l'heure du Canu Info.
Et ce soir, Ségolène Royal, ministre de l'écologie, interdit le Roundup.
Ensuite, une directive européenne pour interdire aux journalistes de faire chier les groupes financiers.
Après Copwatch, c'est au tour de la police de se lancer dans Migrant Watch.
Ensuite, on ira faire un tour du côté de la ZAD de Roibon avec un préfet qui voudrait bien expulser tout le monde en juillet.
Le gouvernement balance un nouveau plan contre l'immigration.
Et youpi, enfin une bonne nouvelle dans ce Canu Info, une nouvelle victoire des Kurdes face à Daesh. Alors, on va commencer par cette mesure de gauche qui va rentrer dans l'histoire, celle de l'interdiction du Roundup dans les jardineries. Alors, le gouvernement a réussi à ne pas plier face au lobby de Monsanto, qui est propriétaire du désherbant Roundup. Enfin, il a réussi à pas plier presque, puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'une interdiction, mais d'un encouragement aux jardineries à ne plus vendre ce produit. Alors, produit qui sera de toute façon interdit en 2018 dans le cadre du plan Ecophyto. Le plan Ecophyto est une mesure qui fait suite au Grenelle de l'environnement de 2007. Ce n'est donc pas tout à fait une mesure de ce gouvernement. Pire, le gouvernement actuel a même modifié le plan Ecophyto de 2007 et créé le plan Ecophyto 2. Alors attention, vous vous dites quand même un gouvernement de gauche. En plus, il y avait les Verts et tout à l'époque. Attention, amis désherbeurs, tremblés. Eh ben non, dans sa première version, le plan prévoyait de diminuer de 50% l'usage de pesticides d'ici à 2018. Alors là, le gouvernement socialiste n'a pas décidé de remonter ce pourcentage à 100%. Non, non, il reporte cet objectif à 2025.
Hier, la commission juridique du Parlement européen a donné son feu vert à la directive sur le secret des affaires. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est une directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées, donc les secrets d'affaires, contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicite. Cette directive a été proposée en novembre 2013 par la Commission européenne. Et elle vise à créer une définition européenne du secret des affaires, à harmoniser les différentes lois nationales là-dessus, afin de mieux protéger les entreprises contre la divulgation de leurs secrets économiques, dans l'optique d'améliorer leur compétitivité. Une fois votée par le Parlement européen et approuvée par le Conseil de l'Union européenne, la directive contraindrait les 28 États européens à prendre des dispositions pour mieux définir le secret des affaires selon les orientations fixées par l'Union européenne et à instaurer des amendes pour les gens qui enfreignent ce secret des affaires. Alors ça a l'air très bien tout ça, mais c'est quoi le problème ? C'est que sous couvert de protéger les entreprises, ce texte risque surtout d'empêcher les journalistes de faire du travail d'enquête, c'est-à-dire d'aller fouiller un peu dans les secrets un peu dégoûtants des affaires et notamment de révéler des informations qui pourraient être compromettantes pour les entreprises. Si une source ou un journaliste viole ce secret des affaires, des sommes colossales pourraient lui être réclamées. Ça pourrait atteindre des millions, voire des milliards d'euros, puisqu'il faudra des dommages et intérêts qui correspondent au préjudice que l'entreprise aurait réellement subi. On pourrait peut-être même, selon certains pays, assister à des peines de prison dans ce cas-là. Ben voilà, ça fait un certain nombre d'histoires qui auraient peut-être jamais vu le jour, comme par exemple tous les scandales médicaux, tous les médicaments dont on s'est rendu compte au bout d'un certain temps qu'en fait ils étaient ultra dangereux pour la santé des gens qui les prenaient. Les journalistes qui sont contre cette loi parlent aussi d'une affaire d'optimisation fiscale de multinationales au Luxembourg, un truc qui a été fait en toute légalité par des banques luxembourgeoises qui a été du coup révélé par des journalistes Et que si l'affaire avait lieu après que la directive soit passée, ben les journalistes en question iraient en prison plutôt que les banquiers luxembourgeois qui proposent aux riches d'aller mettre leur thune à l'abri. Ou des histoires de pesticides de Monsanto aussi, qui, du coup on vient d'en parler, mais il y a quand même eu à des moments des condamnations aussi de pesticides parce qu'ils étaient hyper mauvais pour la santé, je veux dire même des interdictions, c'est déjà arrivé, même si pour l'instant les socialistes ont apparemment du mal à s'y remettre. Mais en tout cas, ça, c'est arrivé parce que des journalistes à des moments ont enquêté là-dessus, et ben les journalistes qui enquêteront là-dessus demain, qu'est-ce qu'ils feront ? Ils devront payer à Monsanto toute la thune de tous les pesticides qu'ils auraient vendus si les journalistes ne leur avaient pas fait de la mauvaise pub.
C'est-à-dire que maintenant, les coupables, ce ne sera plus les salauds qui soit nous tuent avec des pesticides ou des mauvais médicaments ou en plaçant leur thune ailleurs, machin, ce sera ceux
ça
qui
sera les journalistes qui révéleront toutes ces affaires.
Alors, des flics de Calais ont balancé une vidéo au journal La Voix du Nord. Alors, La Voix du Nord, c'est l'équivalent du Progrès dans cette région.
C'est dire tout le respect qu'on a pour ce journal.
C'est ça. Mais j'ai même l'impression qu'il est un cran au-dessus, quoi. Du coup, vidéo balancée par le biais de leur syndicat UNSA Police. Alors, la vidéo est accompagnée d'un communiqué de presse faisant passer les flics pour les victimes, hein, bien sûr. Alors, les flics se plaignent d'un travail difficile, de l'attitude hostile des migrants, hostilité qui se transforme parfois en violence physique à leur égard.
Incroyable.
Bon, clairement, dans la vidéo, hein, qui est disponible sur Internet, vous pouvez la regarder, on voit pas grand-chose, mis à part un appel radio pour dire qu'une de leurs motos a été mise à terre par les migrants. On voit également le flic qui filme rouler à toute vitesse, à contresens, sur l'autoroute, rasé de près, les migrants qui essayent de rentrer des camions au risque de les shooter, les menacer avec sa matraque et sa gazeuse en leur disant continuellement « dégage ». Bref, dans cette vidéo, aucune violence à l'égard des flics, mais plus des humiliations venant de leur rang. Alors, ça n'a pas empêché le délégué syndical de déclarer « Ce n'est pas, je cite, hein, ce n'est pas facile de travailler à Calais, oh non, quand on se retrouve, bon le oh non, c'est moi qui l'ai rajouté, hein, quand on se retrouve à 3 policiers contre 200 migrants, point de suspension ». Et derrière, de réclamer bien sûr plus de moyens, notamment des espèces de gilets airbags pour les motards, comme ça quand ils tombent après, mais ça on voit pas trop le rapport avec les migrants. Bref.
Si, parce que si le flic dont tu parlais tout à l'heure shoot effectivement un migrant en roulant à contresens.
Ah, au moins lui sera protégé par ses airbags qui se gonflent comme ça s'il tombe de sa moto. Bien vu. Tac. Bon, en réalité, cette vidéo est une réponse à une autre vidéo postée par le collectif Calais Migrant Solidarity, qui est, bon, je pense, un peu issu du mouvement No Border, hein, si je me trompe pas, qui, eux, dénoncent les violences policières, hein, bien plus fréquentes, et leur vidéo est quand même bien plus parlante, hein, une de leurs vidéos, en tout cas, on y voit des flics en train d'intervenir sur l'autoroute où des migrants essayent de se cacher dans des camions afin de passer la frontière pour se rendre en Angleterre, hein, ce qui est un peu le quotidien à Calais. Donc les migrants sont jetés de l'intérieur du camion par terre, hein, ce qui est quand même un camion, je sais pas si vous voyez, mais le sol d'un camion, enfin l'intérieur d'un camion, c'est quand même assez haut, donc jetés comme ça à 1 mètre. Les gazer alors qu'ils ne représentent clairement aucune menace, les frapper au sol, les poursuivre à travers champs, matraque à la main. Bref, rien à voir avec la vidéo venant des flics, rien à voir non plus sur le niveau de violence pour les migrants, cette violence est quotidienne, le soir quand ils vont rentrer dans leur camp, bien sûr d'autres flics prendront la relève pour continuer le sale boulot de leurs collègues, alors que ces mêmes collègues rentreront tranquillement chez eux au chaud avec leur famille en train de manger une bonne soupe. Alors foutre la moto d'un flic par terre quand on est migrant à Calais ou ailleurs, c'est quand même loin d'être de la violence, mais juste une petite vengeance.
Roi bon maintenant, le préfet envisage une expulsion des opposants en juillet. Le préfet de l'Isère envisage de procéder à cette expulsion au mois de juillet en cas de rejet par le tribunal administratif des recours qui ont été déposés par les opposants au projet de village vacances. Donc si les conditions juridiques sont réunies, je n'attendrai pas, dit le préfet. Dès qu'on aura connaissance des décisions de la justice, on le fera, même si juillet n'est pas la meilleure période pour une évacuation. a déclaré le préfet Jean-Paul Bonnetin au cours d'une rencontre avec la presse. Le tribunal administratif de Grenoble doit examiner le 2 juillet les recours des opposants contre deux arrêtés préfectoraux qui autorisent le projet de village vacances. La semaine dernière, le rapporteur public, alors le rapporteur public, qu'est-ce que c'est dans les tribunaux administratifs? Il y a ce personnage-là entre le juge, les avocats de ci et de là et tout ça. C'est celui qui est censé un peu examiner le dossier et dire au juge ce que le juge devrait faire. Et en fait, le juge assez souvent suit l'avis du rapporteur. Donc la semaine dernière, ce rapporteur avait demandé au Conseil d'État d'annuler une décision de ce même tribunal qui avait suspendu un de ses arrêtés en décembre dans le cadre d'une procédure d'urgence. Alors, en résumé, le rapporteur a dit « Ouais, il faut y aller, il faut construire ce village vacances. » Parce qu'il annule un truc qui annule, du coup, voilà. Bon, donc là, pour l'instant, la décision du tribunal n'est pas rendue. Hein, la séance du tribunal doit se tenir le 2 juillet. Si le Conseil d'État et le tribunal administratif décident finalement de valider les arrêtés préfectoraux, c'est-à-dire les arrêtés qui autorisent la construction du village, l'État et le groupe Pierre et Vacances devront alors demander à la justice l'autorisation de recourir à la force publique pour expulser les militants hostiles au projet. Et après, en fait, ils devront demander ça à la préfecture, hein. Ces militants hostiles ont fait du chantier de Pierre et Vacances une ZAD, une zone à défendre. Oui, non, mais là, je suis en train de lire des petits bouts d'articles que nous, on est au courant quand même. Juste pour revenir dessus, voilà, le village Vacances, c'est un millier de petits cottages. Alors, c'est des sortes de bungalows qui sont prévus autour d'une bulle tropicale. Ça doit s'étendre sur 202 hectares. Au cœur de la forêt de Chambaran. 40 hectares de forêt ont déjà été, explosés sur les 80 qui sont prévus de couper. L'arrêté de défrichement de Pierre et Vacances arrive à expiration mi-juillet. Mais le gouvernement a pris un décret qui a été publié samedi au journal officiel qui permet aux préfectures de prolonger ce type d'arrêté pour une durée maximale de 3 ans. En cas d'impossibilité matérielle à exécuter les travaux de défrichement. C'est-à-dire que, en gros, le préfet, à un moment, autorise un défrichement, mais il l'autorise, il faut que le défrichement soit fait dans une durée donnée, qui doit être une durée, il me semble, de 3 ans. Là, en l'occurrence, pour Pierre et Vacances, ça arrive à la fin du truc mi-juillet, mais le gouvernement a décidé que, bon, ça va, le préfet a le droit de dire qu'il s'en fout et de prolonger ça pour autant qu'il veut.
Et sachant quand même, c'est toujours bon de le préciser, à chaque fois, les projets de genre Center Park, là, de Pierre et Vacances et tout, c'est quand même un truc qui vendent aux gens qui ont un peu de trucs, parce que ça coûte cher, un espèce d'espace de vacances comme ça, au milieu de la nature, protégé et tout. Et c'est quand même pas mal de montrer quand même, avant de faire ces espèces d'îlots un peu, genre passer des vacances au naturel ou je sais pas quoi, là, ils rasent des forêts.
Il faut commencer par tout niquer parce que...
Ouais, c'est ça.
Parce que la nature, c'est quand même hostile.
Et ben, comme on a un tout petit peu de temps, et ben on va s'écouter une petite musique.
Ouais.
Thank you.
Alors vous venez d'écouter le morceau Les Failles du groupe Zone Infinie, un groupe qui dont un des animateurs de Radio Canu est membre, pardon, qui fait l'émission Le Cri du Ralliement à...
le jeudi à 23h.
Voilà, petite un peu auto-promo tout ça, mais je vous conseille d'y jeter une oreille. Vous êtes toujours sur Radio Canu, il est 19h27 et c'est toujours l'heure du Canu Info. Alors là, on va parler de Cazeneuve qui a annoncé aujourd'hui un plan pour les migrants. Enfin pour, hein, attention, il va falloir le dire très vite.
Les migrants.
Ouais, c'est ça. Qui fait un peu suite aux violentes expulsions médiatisées qui ont eu lieu à Paris. Alors, grosso modo, ce plan prévoit 9500 places d'hébergement créées pour les réfugiés et les demandeurs d'asile, 1500 nouvelles places d'hébergement d'urgence pour les migrants en transit, et un effort sur le renvoi des migrants économiques et le doublement de l'aide au retour. Vous voyez à peu près. Bon, concrètement, la création des 9500 places pour les réfugiés et les demandeurs d'asile dans ce qu'on appelle des CADA, qui veut dire centre d'accueil pour demandeurs d'asile, n'est pas une fleur du tout faite aux réfugiés, puisque l'État est dans, quand même dans l'obligation d'héberger toute personne en cours de demande d'asile. Si aujourd'hui le gouvernement répond à la polémique sur les expulsions de campements par cette annonce, ça répond juste à une carence qui est dénoncée depuis des années et des années par les associations de soutien aux migrants, et je doute personnellement très fort que ces 9500 places soient suffisantes. Bon, mais comme tout plan qui concerne de près ou de loin l'immigration ou plein d'autres trucs hein, pour le gouvernement, on a l'habitude, il y a toujours des mesures répressives derrière. Cette fois-ci, elle concerne le retour volontaire. Bon, volontaire, c'est avec des gros guillemets hein, quand même. Et la gestion des centres de rétention. Alors Cazeneuve, avec ses mesures, va essayer de faire rentrer dans la tête d'une personne ayant fui son pays pour diverses raisons économiques, politiques, etc. Que certes, il a risqué sa vie pour venir ici, hein, on le voit à chaque fois qu'on parle de la Méditerranée. Il a quitté sa famille et ses attaches pour essayer de se démerder un peu mieux ailleurs. Eh bien non, malgré tout ça, il va leur dire « Regarde, on te file un petit billet et tu vas rentrer gentiment chez toi. » Je doute fort que ça marche. Son but est de multiplier par deux quand même le nombre de retours volontaires. Alors à moins qu'il le fasse sous la menace des flics au centre de rétention qui leur diront soit t'acceptes ça, soit nous on t'expulse direct, ce qui risque d'être quand même probable. Et ce qui
est ça, soit tu prends un petit bifton, soit tu prends un coup de pied au cul, dans tous les cas tu vas te retrouver au bled.
C'est ça, donc c'est pas vraiment ce qu'on appelle volontaire, ni vraiment un choix. Mais dans ce même temps, le gouvernement veut optimiser le remplissage des centres de rétention. Alors ça, ce que ça veut dire, bon, il a pas détaillé, mais quand même, on voit pas d'autres moyens de faire ça. En gros, c'est que si un sans-papier est arrêté à Lyon et que le centre de rétention est plein, il pourrait être transféré dans un autre centre où il y a de la place. Bon, alors ça veut dire que ça l'éloignera de sa famille, de ses amis, ça rendra beaucoup plus difficile pour lui la possibilité de se défendre, parce que même quand les migrants sont en centre de rétention, ils ont la possibilité de faire quelques recours qui marchent que très rarement, mais en tout cas ils ont besoin de tout un tas de pièces, de pouvoir contacter leurs avocats, si possible de pouvoir rencontrer leurs avocats pour voir à peu près quelle stratégie...
Si possible d'avoir des potes qui passent chez eux chercher des papiers qui...
C'est ça.
Ils ont laissé dans leur chambre.
Des potes qui lui amènent un téléphone portable pour pouvoir. Enfin, bref, il y a tout un tas de trucs qui fait que le centre de rétention, c'est un peu comme une garde à vue qui se prolonge. Et du coup, ils ont besoin de. Ils sont accusés de je sais pas, tout un tas de trucs, mais en tout cas de pas pouvoir rester en France. Et eux, faut qu'ils se défendent là-dessus. Le fait de les éloigner de l'endroit où ils vivent, forcément, ça rendra beaucoup plus difficile ce truc-là. Donc voilà, ça c'était. Bon, il n'est pas trop rentré dans les détails sur ce truc-là, mais voilà. Et quand même, dans un second temps, bon, à part ce plan-là, mais le gouvernement prévoit quand même une réforme du droit d'asile en voulant, alors là c'est un peu leur mesure phare, accélérer la procédure de demande d'asile. Alors ça, c'est fait sous couvert d'un espèce de faux humanisme un peu plus long, relayé par plein d'assos et de gens de gauche. Alors on ne sait pas trop si ces assos, elles sont naïves ou si elles marchent vraiment derrière le gouvernement. En gros, ils essayent de faire passer la pilule en justifiant qu'il est insoutenable pour les migrants d'être dans l'attente aussi longtemps avant de savoir à quelle sauce ils vont être bouffés par la Commission nationale de droit d'asile. Sauf que c'est largement oublié quand même le fait que pour bon nombre de migrants, une fois la demande d'asile déposée, ils peuvent souffler quelques mois. Attention, quand je dis souffler, c'est ils ont des récépissés qui leur sont renouvelés tous les 3 mois, ce qui est quand même très maigre. Que la plupart ne se font aucune illusion sur le refus plus que probable prononcé par la Cour nationale du droit d'asile, et que ce temps qui paraît si long au ministre leur permet éventuellement de pouvoir trouver d'autres bidouilles pour pouvoir rester en France dans des procédures déjà bien verrouillées par toutes les lois passées des gouvernements précédents et de celui-là, sans parler du fait que plus l'examen des dossiers est rapide, plus leur traitement sera expéditif et donc encore plus arbitraire. Bref, cette histoire de raccourcissement des délais pour soi-disant plus d'humanité, qui, j'ai l'impression qu'en tout cas, en entendant parler, j'ai entendu plein de gens auxquels je me serais pas attendu, enfin genre plein d'assauts en disant oui, c'est vrai que ce serait bien d'accélérer pour que les gens ils sachent au moins à quoi s'attendre. Bah, en réalité, quand même, ça cache réellement une volonté de rendre les migrants encore plus précaires et de pouvoir les expulser juste encore plus vite avant qu'ils puissent trouver une autre solution ou éventuellement quelqu'un avec qui se marier, rencontrer, enfin, genre tout un tas de trucs qui fait que qui pour eux ça serait possible de pouvoir rester ici.
Et enfin, on se barre en Syrie, où les forces kurdes de Syrie, les fameuses unités de protection du peuple, les YPG et les YPJ, ont pris hier le contrôle total de la ville de Tal Abyad, une ville frontalière de la Turquie qui était aux mains du groupe État islamique. Cette ville est située dans la province de Raqqa, fief de l'État islamique en Syrie, et elle était l'un des deux principaux points de passage informels avec la Turquie à travers lesquels le groupe État islamique faisait entrer des armes et des combattants. Sur cette frontière, il ne lui reste plus comme point de passage que celui de Jarablos, dans la province d'Alep, au nord. Et puis des tout petits points de passage secondaires, mais qui sont moins utilisables. Pour l'État islamique, la défaite est cuisante. Les troupes kurdes avaient lancé leur offensive sur Tal Abyad le 11 juin et avaient été appuyées par les frappes de la coalition. La ville était notamment cruciale pour l'approvisionnement de son fief de Raqqa à 86 km au sud. Raqqa est tombée en janvier 2014, du coup il y a un an et demi, aux mains de l'État islamique qui contrôle de vastes régions en Syrie et en Irak. Un responsable kurde, un gars qui s'appelle Ahmed Seixo, a expliqué que l'État islamique s'était retiré de Tal Abyad sans offrir beaucoup de résistance et que c'était une victoire relativement facile sur ce coup-ci. Pour un autre porte-parole d'un groupe rebelle qui est allié aux Kurdes, l'alliance anti-État islamique procède au ratissage de Tal Abyad pour permettre aux civils de rentrer chez eux. Il y a des mines et des voitures piégées partout et puis il y a aussi des corps des combattants de Daesh qui gisent dans les rues. Les derniers affrontements ont provoqué l'entrée de 23 000 nouveaux réfugiés syriens sur le territoire turc entre le 3 et le 15 juin, selon l'ONU. Alors, les forces kurdes contrôlent avec tout ça 400 km de frontière avec la Turquie. Ça va de Kobané dans la province d'Alep jusqu'à la frontière irakienne à l'est. Et bizarrement, lundi soir, le gouvernement turc a renouvelé ses accusations contre les Kurdes syriens et il les accuse de pratiquer un nettoyage ethnique contre les non-Kurdes, ce qui est, semble-t-il, une foutaise totale. En fait, c'est juste que le gouvernement turc ne sait plus quoi inventer pour décrédibiliser les Kurdes. Et il accuse du coup aussi les Kurdes de réunir plusieurs cantons ensemble, et ça a l'air d'être très très grave. Et de fait, avec les victoires militaires du PYD, et ben effectivement, il y a trois cantons, celui de Kobané, celui de Jazirée et celui de Afrin, qui sont réunis dans une province plus vaste, qui donc est la province du Rojava. Pour autant, comme l'avait expliqué la coprésidente du PYD, qui avait été interviewée à Kobané par Luma, l'idée n'est pas de faire une sécession avec la Syrie. De faire sécession avec la Syrie, ouais, c'est pas d'avoir un État indépendant, mais en tout cas Ankara, donc la Turquie, craint quand même que ces victoires kurdes ne renforcent le PKK au lendemain, en plus d'une importante victoire électorale des Kurdes en Turquie, 13% et 80 députés qui ont été remportés par le HDP, qui est le parti qui soutient la cause kurde en Turquie. Donc voilà, là ce qui se passe quand même pour le gouvernement turc, c'est que d'un côté les Kurdes remportent des victoires militaires, D'un autre côté, il remporte des victoires électorales et d'un troisième côté, il remporte des sortes de victoires en termes de crédibilité internationale, dans la mesure où la fameuse coalition que j'ai mentionnée tout à l'heure très rapidement pour dire qu'elle les avait épaulées par des frappes aériennes, la fameuse coalition n'a pas du tout envie d'envoyer des soldats occidentaux risquer de se faire buter par les islamistes, et donc elle est extrêmement contente que les Kurdes veuillent bien, eux, aller à pied dans les rues des différentes villes qu'il faut reprendre à Daesh. Et sauf que tout ça fait que petit à petit des Américains ou des gens comme ça là commencent à être quand même d'une manière ou d'une autre à être allié aux Kurdes, alors officiellement pas au PKK, mais en tout cas pour la Turquie, les Kurdes c'est toujours un peu d'une manière ou d'une autre potentiellement lié au PKK.
Ben, il est 19h37, on a presque fini ce Canu Info et c'est l'heure de la météo. Alors comme vous l'entendez derrière moi, a priori, ça risque d'être fini un peu la pluie pour les jours qui viennent. Demain, on aura des minimales qui seront vers 13 degrés, avec un maximum de 26 degrés. Alors le soleil sera légèrement voilé, mais de belles éclaircies sont à prévoir.
Il y a même une grenouille, quoi.
Comment ?
Il y a même une grenouille.
Eh ben ouais, attends. On est à Lyon, on n'est pas à Lyon quand même. Ensuite, les températures seront sensiblement les mêmes. Bon, le thermomètre montera un peu moins haut, on ira jusqu'à 24 degrés. Au niveau du ciel, et ben c'est pareil, le matin sera toujours un peu voilé, mais l'après-midi et la soirée seront assez ensoleillées.
Il y a un toucan perché sur ton pied de micro.
Et, ouais, t'as vu ça. Ensuite, j'en étais à samedi, et ben samedi grand beau, pas du tout de nuages, mais des températures qui dépasseront pas les 24 degrés cette fois-ci non plus. Et dimanche, et ben pour une fois quand même, on aura un beau week-end pour les gens qui travaillent, c'est quand même pas plus mal. Dimanche, on aura un thermomètre qui montera jusqu'à 27 degrés. Et un minimal de 15 degrés et un gros soleil, quoi, toute l'après-midi, de quoi faire bronzette à la terrasse des cafés, dans son jardin, sur son balcon, dans son appart. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à rappeler ? On a un petit agenda là que j'ai fait vite fait, parce que maintenant on a internet dans le studio, du coup c'est génial. Qu'est-ce que vous pouvez faire cette semaine ? Eh ben, il y a la cantine solidaire du CSAO Le Haraga qui se passe à partir de midi au cul-de-sac, qui est au quartier Maisonneuve, au fond de la rue Cyrano. Et... Alors, dis-moi pas que c'est con, ils ont quand même pas mis la date. C'est pas vrai. alors, attendez, je vais vous retrouver la date vite fait. Si, c'est jeudi, demain, pardon. C'est demain, de midi à 15h. Et donc voilà, c'est une cantine prix libre du midi. Tous les samedis, non mais c'est n'importe quoi, pardon, c'est le samedi, voilà. et tous les bénéfices sont en soutien à des luttes définies chaque semaine avant le repas. Du coup, vous venez à la cantine, des gens proposent des trucs et puis un moment ça discute et puis les gens disent ah bah voilà, la thune elle aura qu'à aller à ce truc là. Bref, allez-y, c'est plutôt chouette comme initiative. Mercredi 17 juin, et ben là c'est dans 20 minutes, c'est pour ça qu'on finit un peu tôt, pour que vous puissiez y aller et voilà.
Et nous-mêmes on y court,
c'est de 20h à 22h ce soir, c'est le témoignage sur une situation d'urgence à Calais, bon, on en parle quand même pas mal ici. Voilà, ça se passe à la Maison des Solidarités, 215 rue Vendôme. Enfin, c'est à l'angle 215 rue Vendôme, 62 rue Chaponnet, à Lyon 3e, métro Saxe-Gambetta, entrée libre, courez-y, ça a l'air cool. Aussi un petit coup de pub pour dire qu'une permanence juridique de soutien aux sans-papiers existe à la Lutine, au 91 rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement. Alors, c'est une permanence juridique pour les personnes qui ont des problèmes de papier. Ça a ouvert depuis le 20 avril et c'est tous les lundis de 18h30 à 21h. Alors, si vous avez des soucis de papier ou si vous connaissez quelqu'un qui a des soucis de papier, parlez-lui-en. Voilà, la personne sera bien accueillie là-bas. On a fini pour l'agenda et on rappelle que la semaine prochaine, on partage notre Canu Info avec l'émission Le Fil d'Ariane. qui sera cette fois-ci, du coup, ce sera le 24 juin, mercredi prochain.
Donc, une émission animée par des avocates qui, à chaque fois, viennent nous éclaircir des points de droit sur une thématique chaque mois.
Et là, la thématique est devrait parler à quand même pas mal de gens, puisque cette émission sera consacrée à la garde à vue. Du coup, disons voilà, ça commencera à 19h30 jusqu'à 20h, mais quand même rien ne vous empêche de nous écouter avant de 19h à 19h30.
Et oui, et si d'ici là vous avez des questions un peu précises à leur poser sur ce sujet en particulier, n'hésitez pas à aller sur leur blog qui est sur les blogs de Radio Canu. Donc on va sur Radio Canu, on cherche les blogs de Radio Canu, et là, le fil d'Ariane. Et là, c'est possible de leur envoyer vos questions par mail.
Tout à fait. Au mail, ou même je peux vous donner le mail au cas où vous ayez de quoi noter, c'est le fil d'Ariane, tout attaché, tout au singulier, @rebellion.info.
Et voilà.
Voilà, et bien il est 19h42, on va vous laisser avec quelques minutes de bande continue, avant de laisser place à Idées Noires.
Les anarchistes.
L'émission de la coordination des groupes anarchistes. Merci de nous avoir écoutés.
Allez,
bonne
ciao
soirée.
The green bills, the American dream drives some insane on the search for material things. Free your mind so you're not blind. Maybe in time you'll wave your fist with this rhyme. Not trying to preach to you, just hope this rhyme reaches you. Poor versus rich, as in good versus evil. Fight for respect that is due. Power to the people. To make a change, the revolution's gonna be extremely physical. So now it's time for us to start preparing in our mental minds. And there's a chance you might die fighting the oppressor on the side of the deprived, making a way for a better day. Don't be surprised to hear the people say, we've had enough.